Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cet essai de lexicologie, Jean Prouvost examine ce que le français doit à la langue arabe à travers un vaste inventaire de mots et de leur parcours. Professeur spécialiste de l'histoire de la langue française, il ne propose ni une histoire générale du monde arabe, ni un dictionnaire strictement technique. Son objectif est de rendre visibles des emprunts devenus si familiers que leurs locuteurs ne perçoivent plus leur provenance. L'ouvrage couvre des domaines quotidiens comme l'alimentation, le vêtement et le commerce, mais aussi les sciences, la navigation, la musique, la guerre et les pratiques culturelles. Il replace ces circulations lexicales dans des contextes historiques distincts, depuis les échanges méditerranéens médiévaux jusqu'aux contacts liés au Maghreb colonial et aux usages contemporains. Le titre interroge ainsi la formule scolaire des ancêtres gaulois en déplaçant la question vers les héritages linguistiques réels. Accessible, sans renoncer à la précision étymologique, le livre invite à considérer le français comme une langue construite par des contacts, des traductions et des transmissions multiples. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un inventaire qui rend perceptible la présence arabe dans le français courant. Le premier rapport du livre tient à son effet de dévoilement. Jean Prouvost rassemble plusieurs centaines de mots associés, directement ou par étapes, à l'arabe. Cette ampleur importe moins comme classement définitif que comme correctif à une intuition répandue selon laquelle les emprunts arabes se limiteraient à quelques termes familiers ou à un vocabulaire récent. Le lecteur rencontre au contraire des mots installés dans des registres très différents, tels que artichaut, sucre, café, coton, gilet, magasin, amiral, algèbre ou zénith. Leur coexistence montre que l'influence ne relève pas d'une enclave culturelle séparée du français standard. Elle participe à ses usages les plus ordinaires comme à ses vocabulaires savants. L'organisation par champ de la vie sociale rend cette présence concrète. Un repas peut réunir pastèques, épinards, estragons, sorbets, sirops et orangeades, tandis que les mathématiques mobilisent algèbre, algorithmes, chiffres et zéros. Cette méthode évite de réduire l'étymologie à une liste de curiosités. Elle fait apparaître un phénomène de densité lexicale et conduit à distinguer l'origine historique d'un mot de sa perception actuelle. Un mot parfaitement français par son emploi peut conserver la trace d'une longue circulation linguistique. Deuxièmement, des routes étymologiques complexes plutôt qu'une filiation linguistique simpliste. L'ouvrage insiste sur un point méthodologique essentiel, dire qu'un mot est d'origine arabe ne signifie pas toujours qu'il a été créé en arabe ni qu'il est arrivé directement de cette langue au français. Les mots voyagent, changent de forme, de sens et parfois de statut avant leur adoption. Certains emprunts sont liés à l'arabe savant et à la transmission de savoir, comme algèbre ou amiral. Des autres sont passés par des parlers du Maghreb et se sont diffusés dans des usages populaires à l'image de kif-kif, bezef ou chouïa. Des autres encore ont connu des relais méditerranéens, notamment par l'espagnol, le catalan, l'italien ou le portugais. Le cas de aubergine illustre cette prudence, son parcours remonte au sanskrit et au persan avant son passage par l'arabe et des langues romanes. Cette attention aux médiations protège contre deux erreurs opposées. La première consiste à nier le rôle de l'arabe dès lors que le mot a une origine plus ancienne. La seconde consiste à attribuer à l'arabe toute la généalogie d'un terme qui a circulé par lui. Prouvost présente donc l'étymologie comme une histoire de transmission. Le français apparaît moins comme un système isolé que comme le produit de réseaux commerciaux, intellectuels et politiques. Troisièmement, les sciences et les échanges méditerranéens comme vecteurs de transmission, une partie marquante du livre concerne les vocabulaires scientifiques et techniques. Des termes comme algèbre, algorithme, chiffre, zéro. Zénith et nadir rappellent la fonction de médiation remplie par les savants et les textes arabophones dans la circulation de connaissances vers l'Europe médiévale. Le livre ne transforme pas cette observation en récit d'une civilisation unique à laquelle tout serait redevable. Il met plutôt en évidence un fait linguistique : les mots conservent la mémoire des canaux par lesquels des savoirs ont été traduits, enseignés et utilisés. La présence de ces termes dans le français moderne signale l'importance des échanges entre espaces arabophones, monde méditerranéen et langue européenne. Le même raisonnement vaut pour les mots liés au commerce et à la navigation, comme magasin ou douane, ainsi que pour certains produits alimentaires et matières textiles. Ces vocabulaires se déplacent avec les marchandises, les pratiques administratives et les techniques. Le livre donne ainsi un contenu matériel à l'histoire des langues. Les emprunts ne sont pas des ornements ajoutés après coup, ils accompagnent l'adoption d'objets, de calculs, de méthodes, de goûts et d'institutions. En reliant le lexique à ces pratiques, Prouvost éclaire pourquoi des emprunts peuvent durer longtemps et devenir indispensables sans que leur provenance reste visible. Quatrièmement, colonisation, guerre et contact franco-maghrébin dans les usages populaires. Jean Prouvost ne limite pas son enquête au Moyen-Âge et aux grandes transmissions savantes. Il considère aussi les effets des contacts plus récents entre la France et le Maghreb. La colonisation, la présence militaire française en Afrique du Nord, les deux guerres mondiales, puis la guerre d'Algérie ont créé des situations de proximité, de mobilité et de confrontation qui ont favorisé l'entrée de termes dans le français populaire. Des mots tels que toubib, kleb, klebar, baroudeur, kif-kif ou kiffé renvoient à cette histoire, même si leur trajectoire exacte et leur niveau de langue diffèrent. Cet aspect donne au livre une portée sociale. L'emprunt lexical ne résulte pas seulement de l'admiration pour un savoir prestigieux ou de transactions pacifiques. Il peut naître dans des rapports de pouvoir, dans la vie de caserne, dans les migrations et dans des expériences coloniales souvent violentes. Le livre invite donc à ne pas séparer l'histoire des mots de celle des relations humaines qui les rendent possibles. L'attention portée au rap et aux usages contemporains prolonge cette analyse, les pratiques culturelles actuelles continuent de transformer le français et de rendre audible des héritages longtemps relégués aux marges. Le lexique devient ici un indice des contacts sociaux durables. En dernier lieu, une critique documentée du récit des origines exclusivement gauloises, le titre du livre joue délibérément avec la formule des ancêtres gaulois, longtemps associée à un récit scolaire des origines françaises. Pruvost ne soutient pas que les Français auraient une ascendance unique, arabe ou autre. Il déplace le débat vers ce qui peut être observé dans la langue, le français S est formé par superposition et emprunt. La comparaison entre le faible nombre de survivances gauloises dans le lexique courant et l'abondance des apports arabes sert à questionner les évidences culturelles. Elle rappelle aussi que la généalogie linguistique ne se confond ni avec une origine biologique ni avec une identité nationale homogène. Cette distinction est particulièrement utile dans un sujet susceptible d'être simplifié à des fins idéologiques. Le livre privilégie les mots, leurs formes et leurs itinéraires plutôt que les affirmations identitaires. Son index et son classement thématique renforcent cette démarche vérifiable. Le lecteur peut partir d'un terme concret et constater comment une histoire linguistique s'inscrit dans la vie quotidienne. L'intérêt de cette perspective est de rendre plus nuancée la notion de patrimoine. Le patrimoine français ne se réduit pas à ce qui serait supposé natif. Il inclut des éléments incorporés, adaptés et parfois oubliés, dont la langue arabe constitue l'une des sources importantes. En conclusion, nos ancêtres, les Arabes, intéressera en premier lieu les lecteurs curieux de l'histoire du français, les enseignants, les étudiants en lettres et les personnes qui souhaitent disposer de repères concrets sur les mots d'origine arabe. Il peut également être utile à qui cherche à aborder les débats sur identité, héritage et immigration à partir d'un terrain précis plutôt que de slogans. Son bénéfice intellectuel principal est d'apprendre à regarder autrement un vocabulaire banal. Après cette lecture, un repas, un cours de mathématiques ou un vêtement peuvent devenir des occasions de repérer des histoires de circulation entre langue et société. Le livre fournit aussi une initiation accessible à la prudence étymologique, une origine arabe peut désigner une transmission directe. Un relais décisif ou une étape parmi plusieurs, et ces distinctions comptent. Par rapport à un dictionnaire étymologique, souvent conçu pour une consultation ponctuelle, Pruvost propose une synthèse thématique qui met les mots en relation avec les contextes historiques de leur diffusion. Par rapport à un essai uniquement politique sur les relations entre France et monde arabe, il conserve l'ancrage vérifiable du lexique. Cette double qualité fait sa singularité. L'ouvrage ne prétend pas fixer une identité française alternative. Il montre, par des exemples nombreux et organisés, qu'une langue vivante porte la mémoire de contacts multiples. Sa lecture est particulièrement féconde pour comprendre que l'emprunt linguistique est une composante normale, durable et créatrice de toute grande langue de culture. Si vous souhaitez soutenir Jean Pruvost, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.